Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on plonge en plein buzz Facebook, bad buzz plutôt même. Et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Gros dossier comme tu le dis ce matin. Le Wall Street Journal a publié il y a quelques jours les Facebook Files, les dossiers Facebook. On a connu Cambridge Analytica, c'était déjà la merde. Là, c'est un dossier encore plus étayé, un travail colossal. Chaque fichier, chaque dossier, comme ils les appellent, est un article très complet, une trentaine de minutes de lecture, accompagné aussi d'un podcast pour ceux qui voudraient simplement l'écouter, et bien sûr des photos, des preuves. C'est une vraie enquête.
Oui, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Wall Street Journal déboule avec, effectivement, des sources provenant de chez Facebook. Hein. La plupart des documents, ils proviennent de sources internes. Hein. Ça suggère que l'entreprise Facebook compte désormais un ou plusieurs poucaves dans ses rangs, clairement. avec beaucoup de trucs qui sont balancés, qui vont clairement entacher à nouveau le groupe Facebook des informations dont il se serait bien passé. Et il y a des trucs au milieu, franchement, qui donnent des boutons dans le dos. C'est très violent. Préparez-vous. Âme sensible, oreille sensible, s'abstenir. Hein. Enlever, retirer les enfants, éloignez-les des enceintes ou de vos écouteurs, parce que ce qu'on va vous raconter ce matin, ça fait mal.
Alors, selon nos informations, cet épisode est le premier d'une série, une courte ou longue série, puisque aujourd'hui 5 Facebook Files ont été annoncés, sont déjà sortis. Il y en aurait d'autres, donc on va marcher en acte. Hein. Là, on serait sur l'acte 1 aujourd'hui. Je peux commencer par la conclusion. Déjà, on a une conclusion centrale de l'article du Wall Street Journal de cette première série. Facebook sait dans les moindres détails que ses plateformes sont criblées de défauts qui causent des dommages, souvent d'une manière que seul Facebook peut comprendre.
Ouais, donc on rappelle la situation. Le Wall Street Journal a mis la main sur un certain nombre de documents internes qui lui ont été donnés par des lanceurs d'alerte au cœur même du groupe Facebook et qui concernent donc Facebook, Instagram, toute l'intégralité des plateformes appartenant au groupe et effectivement, comme le dit Wall Street Journal, qui laisse à penser eh bien, que Facebook a connaissance d'un certain nombre de défauts majeurs dans sa plateforme et qu'il ne fait pas grand-chose pour les combler. Allez, on peut commencer avec les premières news, peut-être la plus simple et la plus légère dont on a déjà parlé ici dans le UPC lundi en début de semaine, c'est que Facebook traite ses VIP de façon différente des utilisateurs lambda que nous sommes.
Voilà, ça fait plusieurs mois pourtant que Facebook dit que ses règles s'appliquent à tous. Depuis 2018, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il voulait que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, qu'un utilisateur lambda, toi et moi, puisse s'adresser aux personnalités politiques, aux personnalités publiques de la même manière. Mais ces documents révèlent une élite secrète des personnes qui, comme tu le dis, n'ont pas le même traitement de faveur sur Facebook.
Alors évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes hein, parce que leur voix, elle est davantage écoutée que les autres et ils sont effectivement, Facebook est effectivement beaucoup moins regardant sur des sujets typiquement fake news, racisme, incitation à la haine raciale, etc., etc. Donc c'est un peu ce qu'on a vécu avant que Facebook ne monte au créneau sur Trump, mais ça concerne aussi bien d'autres personnalités. Donc ça,
ouais. Jusqu'à Doug the Pug. Tu sais, ce chien qui a une gueule absolument ouf, là, voilà, lui peut publier des trucs de merde.
Voilà, donc traitement de faveur pour les VIP qui ne passent pas par les mêmes, on va dire, entonnoirs de validation de contenu. Autre truc, alors ça, je dirais que c'est presque le plus léger, mais là, on va commencer à tomber dans les tréfonds hein, de la plateforme et vraiment le côté sombre de Facebook. Facebook est tout à fait conscient et depuis longtemps, eh bien, qu'Instagram est toxique pour de nombreux adolescentes. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a notamment une étude interne des chercheurs d'Instagram qui étudie depuis des années comment leur application affecte des millions de jeunes utilisateurs. Et à plusieurs reprises, la société, via son centre de recherche interne, via ses chercheurs, a constaté qu'Instagram était ouvertement nocif pour un pourcentage important de ces jeunes, notamment les adolescentes. Et les études internes à Facebook, elle montre qu'Instagram serait même plus toxique que les autres plateformes de médias sociaux.
Ouais, alors ce qu'il y a de ouf hein, dans ces dossiers, c'est que c'est étayé donc de ces études internes avec des chiffres. Au cours du temps, plusieurs enquêtes internes ont été démontrées, ont démontré, je cite, 32% des adolescentes ont déclaré que lorsqu'elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir pire. Et les comparaisons sur Instagram peuvent changer la façon dont les jeunes se voient et se décrivent. Ça, c'est donc tiré d'une enquête de 2020 ou 2021. Également, nous aggravons les problèmes d'image corporelle pour une adolescente sur 3. Les adolescents blâment Instagram pour l'augmentation du taux d'anxiété et de dépression.
Alors, ce qui est choquant, c'est que
ça vient de chez eux.
Tout ça, ça vient de l'interne. En interne, il y a des sonneurs d'alerte, des gens qui ont levé la main en disant c'est grave, là, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Et si on publique, eh bien, Facebook a toujours minimisé les effets négatifs de l'application. En interne aussi, hein, ils ont demandé à tout le monde de dire oui, écoutez, merci pour l'info, mais on va continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Par ailleurs, hein, le groupe Facebook n'a jamais rendu ses recherche publique ou en tout cas disponible pour les universitaires, par exemple, pour les législateurs qui lui ont demandé à plusieurs reprises de savoir s'ils avaient des études internes, s'ils avaient fait des recherches sur ce sujet-là. On le sait, hein, le groupe Facebook, via Mark Zuckerberg notamment, a été entendu à nombreuses reprises, notamment via le Sénat, etc., etc. Et c'est des documents qu'ils ont très habilement planqués.
Hein. Oui, et je peux même te donner des réponses hein, faites par Facebook. Une réponse de Mark, la recherche que nous avons vue est que l'utilisation d'applications sociales pour se connecter avec d'autres personnes peut avoir des avantages positifs pour la santé mentale. Ça, c'est Marc. Et la deuxième de Adam Mosseri, en mai dernier, hein, il a déclaré aux journalistes que les recherches qu'il avait vues suggèrent que les effets de l'application sur le bien-être des adolescents sont probablement assez faibles.
Ouais, alors, autant Marc, je me serais douté qu'il pouvait être un peu pipeau, autant Adam Mosseri, ça me rend triste parce que j'aime bien ce monsieur. Ceci étant, une première répercussion de ces Facebook Files de ce scandale sorti par Wall Street Journal, eh bien hier dans la journée, Facebook a annoncé qu'il mettait immédiatement fin à Instagram pour les enfants, Instagram Kids, un programme dont on a déjà parlé ici, qui est le projet eh bien de créer un Instagram
pour les moins de 13 ans.
Ouais. Donc voilà, c'est le programme est immédiatement arrêté. Donc on le voit, répercussions quand même assez majeures. C'est pas fini. Il y en a d'autres. Autre scandale qui tombe dans ces Facebook Files, pardon. Zuckerberg a essayé de ramener davantage d'engagement dans sa plateforme, ça on le savait, c'était en 2018, mais a transformé Facebook en zone de guerre et pareil, un certain nombre de donneurs d'alerte internes ont souligné que les modifications algorithmiques qui avaient été faites en 2018 pour laisser davantage de place à la famille, aux proches, eh bien avaient un impact très négatif sur les conversations.
Alors le nom du dossier c'est « En voulant faire mieux, ils ont voulu faire pire ». Donc 2018, gros changement et aujourd'hui, bah, les documents montrent que c'est pire et notamment hein, ça a été très très tôt. Il y a Johan Peretti, directeur général de BuzzFeed. Donc il y a un certain nombre aussi de choses externes hein, qui arrivent, des mails qui ont été envoyés à l'époque. Donc il y a une enquête qui est très longue. Donc en 2018, Johan Peretti écrivait à Facebook pour souligner les performances étonnamment hautes d'un article plutôt controverse. Alors BuzzFeed c'est leur fonds de commerce, hein. Mais cet article 21 choses que presque tous les blancs ont tort de dire a fait des performances vraiment ouf. Et donc, il leur a dit, les gars, il n'y a pas un souci. Oui, c'est un article. Oui, on fait du buzz. Mais là, c'est trop pour que ce mec-là vienne se plaindre. C'est beaucoup. Donc, les chercheurs, en fait, en interne, ont découvert que les éditeurs et les partis politiques réorientaient leur publication vers l'indignation et le sensationnalisme. C'est pas nouveau, mais en fait, ils se sont tous mis à le faire pour contourner l'algorithme. Et ça a produit des niveaux élevés de commentaires et de réactions qui se sont traduits par un succès sur Facebook.
Parce qu'en 2018, le changement qu'a fait Facebook sur l'algorithme, bah c'est celui de rapporter beaucoup plus de coefficients, on va dire, aux réactions de nos proches. C'est-à-dire quand toi, tu as une réaction sur un article, tu likes, tu commentes, etc. On va me le pousser à moi. Et ça, c'est vraiment un switch qui a été fait en 2018. Et évidemment, les éditeurs, les créateurs de contenu, les marques, ont transformé leur manière d'écrire, la manière de dire les choses sur la plateforme pour répondre à cet algorithme. Et ça a eu des incidences tout à fait négatives qui ont été soulignées là aussi par des études interne. Et encore une fois, eh bien, la team à Zuckerberg a décidé de planquer tout ça.
Il y a une petite animation. Alors, on pourra la décrire. D'ailleurs, c'est assez vraiment intéressant. Comme il est fait ce dossier, tu as une petite animation, tu l'as vu, où tu scrolles. Donc, dans le Wall Street Journal, tu scrolles et en fait, tu vois une publication classique au départ. Et puis, tu scrolles et tu vois les points d'algorithme, en fait, qui sont attribués. Et alors, je le décris pas en entier, juste un truc important. Tu te rends compte qu'un like vaut un point d'algorithme et une colère vaut 5 points. Donc, on va avoir tendance. Alors, une colère et toutes les autres, pardon. Toutes les autres.
Les émotions.
Toutes les autres émotions. Mais on va avoir tendance à faire monter les émotions les plus fortes en premier. Donc là où tu as de la colère, notamment bah, tous les problèmes qu'il y a eu autour de la politique, etc., ça fait monter plus vite et ça exprime plus vite, ça fait monter plus vite le contenu dans l'algorithme.
Ouais, sur ce sujet spécifiquement, donc là on est en 2018, Zuckerberg est alerté en interne et il résiste à corriger immédiatement son algorithme. Il a peur que effectivement les annonces qu'il a fait quant à, aux nouveautés autour de l'engagement ne prennent pas et donc il laisse perdurer cette situation. Alors depuis, un certain nombre de choses sembleraient avoir déjà été corrigées, mais c'est vrai qu'on a tous collectivement vécu quelques années où les clivages ont été forts et ça a eu des répercussions quand même massives, y compris sociétales à l'échelle mondiale. Depuis 2018, il s'est quand même passé un paquet de trucs qui ont été exacerbés, on va dire, en ligne, et notamment Facebook, et sans doute que la non-correction de cet algorithme a eu un impact. Et c'est pas fini.
Alors, la transition. Elle est magnifique ta transition, hein. C'est très beau. À la fin de l'étude, on dit, hein, donc les chercheurs de Facebook, notre approche a eu des effets secondaires malsains sur d'importantes tranches de contenu public.
Voilà. Ouais, voilà. Non, c'est violent. C'est pas fini, mais c'est une accumulation accablante. Hein, franchement, ce matin, en parlant, j'ai les poils qui se dressent. C'est énorme. C'est pas fini. Facebook serait utilisé pour des trafics d'êtres humains, mais l'entreprise ferme les yeux. Là, franchement, ça glace le sang. Tout commence. Juste un truc. En novembre 2019, BBC News qui diffuse un reportage très flippant. Je sais pas si tu l'as vu, Camille, moi j'avais aperçu ce reportage, je vous le mets en note de cet épisode, qui met en lumière le problème des esclaves domestiques à vendre sur Instagram. Le reportage se passe au Koweït et on y voit des gens littéralement acheter via Instagram des esclaves pour entretenir leur maison. C'est absolument dégueulasse et à l'époque forcément ça fait pas mal de bruit. Qu'est-ce qu'on apprend là dans les études du Wall Street Journal, dans des dizaines de documents qui ont été examinés par le Wall Street Journal? C'est qui montre qu'en interne, pareil, de nombreux employés ont sonné l'alarme à de nombreuses reprises à leurs supérieurs sur la façon dont les plateformes Facebook et Instagram sont utilisées dans un certain nombre de pays en développement pour des mauvaises choses, hein, pour du trafic d'êtres humains au Moyen-Orient, des groupes armés en Éthiopie qui utilisent le site pour inciter à la violence contre des minorités ethniques, des trafiquants qui utilisent les messageries de groupe pour organiser des ventes d'organes, bref, que des trucs dégueulasses. Et globalement, la direction de Facebook a décidé de fermer les yeux.
Si je dois en rajouter un, des cartels de la drogue mexicains, hein, qui recréent leurs pages, qui sont bien souvent pas inquiétés, mais dès que ça disparaît, ils recréent leurs pages, le but étant de recruter, former, payer des tueurs à gages. Quand les comptes sont créés, on voit des gens se faire éclater la cervelle en public, et ça peut rester, ça génère énormément d'engagement. L'un des problèmes qui est pointé ici, hein, c'est que dans certains pays où Facebook opère, il y a peu ou pas de personnes qui parlent les dialectes nécessaires pour identifier les utilisations dangereuses. Donc, ça laisse faire. On comprend clairement aussi que dans les échanges d'anciens dirigeants de Facebook qui sont partis, qui ont déjà participé à Cambridge Analytica, à ce Facebook dilemma, social dilemma, on dit que les pays en voie de développement, clairement, c'est cool parce que ça fait du volume, ça fait de l'abonné, ça fait de la pub.
Mais on va
que
pas s'emmerder à modérer ce qui passe là-bas.
C'est pas notre priorité, carrément. Et il y a un chiffre. Hein. Alors, ce qui est ouf, hein, dans celui-ci particulièrement, c'est qu'il y a énormément d'exemples. Donc là, t'as parlé des cartels, du travail des femmes, du trafic d'organes. C'est assez énorme. Il y en a un, par exemple, en Inde, plus de 300 millions d'utilisateurs sur Facebook, le plus grand nombre de tous les pays. Les chercheurs, en 2019, le biais d'une enquête, ont créé un compte test en tant qu'utilisatrice indienne et ils ont déclaré avoir rencontré un cauchemar en suivant simplement les pages et les groupes recommandés par Facebook. Donc, clairement, c'est Bagdad de ce côté-là, de ce côté des pays en développement et des pays non suivis par Facebook. En 2020, les employés et sous-traitants de Facebook ont passé plus de 3,2 millions d'heures à rechercher et étiqueter dans certains cas et à retirer des informations que l'entreprise a conclues fausses ou trompeuses.
Ouais. Ce qu'on comprend bien dans l'étude, c'est qu'en fait, les moyens, parce que Facebook annonce depuis des années développer des moyens monumentaux pour modérer ses contenus, les fameux modérateurs de Facebook qui passeraient leur temps à voir des horreurs et à sanctionner les contenus, à faire en sorte qu'ils ne passent pas. Mais en fait, ce qu'on apprend très vite, c'est que il y a 2,8 milliards d'utilisateurs de Facebook dans le monde et que le gros de l'énergie, 80% de ces modérateurs, ils œuvrent pour la modération sur le territoire américain et que le peu qui reste est disponible pour l'intégralité du reste du monde. Et évidemment, comme tu l'as très bien dit, tous les pays en voie de développement passent loin derrière. Donc, bah, c'est clairement n'importe quoi sur ces.
Tu m'as volé ma fin. Le chiffre, c'était 13% de ces heures ont été consacrées à du contenu provenant de l'extérieur.
Voilà, bah 13%.
Sachant que déjà l'Inde est le plus gros utilisateur, quoi. C'est bon, c'est juste ouf.
Allez, c'est pas fini. Mais
celui-là, il faisait mal.
Ouais, mais c'est pas fini. Avec l'information que je trouve la plus, peut-être la plus dégueulasse, et qui vient de sortir. Alors moi, j'en ai une petite dernière. Il y en a beaucoup. Hein. Peut-être qu'on va devoir faire du filtre et peut-être qu'on y reviendra parce qu'à mon
avis, aujourd'hui, il y en a 5.
Moi, je voulais parler de cette news qui cette fois-ci tombe du côté du New York Times parce que ça, c'est toutes ces infos viennent du Wall Street Journal et puis c'est au tour du New York Times de lâcher la machine à scandale. Dans la tourmente, Facebook utilise son propre algorithme pour véhiculer des informations valorisantes à propos de son entreprise. Ça, c'est quand même extraordinaire. Selon les informations du New York Times, eh bien, Facebook aurait lancé une initiative pour injecter du contenu pro Facebook dans les fils d'actualité des gens, c'est-à-dire nous, afin de renforcer son image. Le projet s'appelle Project Amplify. Il est tout à fait documenté en interne. Il a été conçu pour montrer aux gens des histoires positives sur le réseau social et donc faire remonter toutes les news qui valorisent davantage Facebook plutôt que celles qui amoindrissent son image.
C'est salaud.
Dégueulasse.
Donc ça, on va dire que c'est le dossier 4,5. Puisqu'il est caché.
Oui.
C'est les fameux X-Files. Le cinquième qui a été donc découvert. C'est salaud ce truc là quand même. C'est un peu Cambridge Analytica, mais pour eux-mêmes quoi. Ils ont pas assez appris que c'était de la merde.
Non, bah c'est-à-dire ils nous rappellent chaque jour qu'on est chez eux hein, aussi, tu vois. Et qu'à la rigueur, ils font bien ce qu'ils veulent.
Tu t'en es rendu compte quand ta mère a publié une lettre d'amour à Mark Zuckerberg.
Non, mais il y a des trucs. Oui, effectivement, c'est. Et bon, bref. Donc, Project Amplify, elle est creuser là-dessus, je vous mets un lien vers l'article du New York Times,
tu vois, c'est
totalement.
Le dossier numéro 5, alors on va boucler sur celui-là, pas forcément étonnant. Ça sent un petit peu le complot international de américain. Comment Facebook a entravé la tentative de Mark Zuckerberg de faire vacciner l'Amérique? C'est assez drôle, c'est une petite histoire interne hein, où c'est pas forcément drôle, mais ça montre quand même que Facebook n'appartient plus totalement à Mark Zuckerberg.
Totalement.
Et ça, c'est dingue. Facebook a mis tout son poids dans la promotion des vaccins Covid-19. Selon Mark Zuckerberg, une priorité absolue de l'entreprise. Ça vient d'une note de service. Mark Zuckerberg veut que sa plateforme soit une force pour le bien social dans le monde. Donc ça, c'est vraiment l'étendue de sa pensée initiale qui va beaucoup plus loin. Cela a fini par montrer le fossé entre les aspirations de Facebook et la réalité de la plus grande plateforme sociale du monde. Les militants se sont mis à inonder leur réseau de ce que Facebook appelle du contenu obstacle à la vaccination, c'est un terme qui vient de chez eux. Selon les notes de service interne, hein, ils ont utilisé les propres outils de Facebook pour semer le doute sur la gravité de la menace de la pandémie, la sécurité, sur tout ça.
En fait,
on l'a vécu chez nous. Quoi.
Oui, mais en fait, là-dessus, Zuckerberg a été partie prenante de là-dessus être dans la sanction et d'être ouvertement pro-vaccin et d'enterrer ces contenus-là. Hein.
Carrément.
Et ce qu'on apprend, c'est qu'en interne, il a subi lui-même des pressions, notamment de ses autres actionnaires, l'invitant à pas du tout faire ça et plutôt à laisser la voix au chapitre aux anti-vaccins.
Ouais, c'est dingue. Mais on le voit chez nous, hein, que les anti-vax, ils ont quand même pris beaucoup de place sur les réseaux sociaux. Alors, quand t'es Facebook et que t'as envie que ça se passe pas comme ça et que ça se passe comme ça, là, ça montre clairement une réalité, hein. Même lorsque Marquito s'est fixé un objectif, il ne peut pas diriger sa plateforme comme il le souhaite. Et sur un sujet aussi grave que ça, c'est super grave.
Ouais, non, mais
ça,
en fait,
ça fait flipper.
En fait, ce qui est étonnant, tu sens quand même que, allez, et peut-être que là, c'est l'effet Project Amplify. Hein, c'est mon feed étant rempli de bonnes news sur Facebook. Peut-être que je vais mettre des bémols. Tout ça est gravissime. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça va bien au-delà de la personnalité de Mark Zuckerberg. Mmh. Et que presque aujourd'hui.
Que ça lui échappe.
Ouais, non, mais presque aujourd'hui, c'est bien pratique pour le groupe Facebook d'avoir un Mark Zuckerberg avec des petits airs de robot quand il est devant les tribunaux. Mais en vrai, Facebook, c'est bien plus que ça. C'est une surpuissance économique, médiatique. C'est quasiment un état dans l'état. Et c'est grave, en fait. C'est grave. Et c'est pas juste du folklorique autour de Mark Zuckerberg. Sans doute même qu'effectivement, Mark Zuckerberg, par bien des aspects, est dépassé littéralement par ce qui se produit. Et au milieu, eh bien, on a ce géant, a des déviances fortes et qui parfois, et c'est ce qu'on découvre, ferme objectivement les yeux. Voilà. C'est pas une ONG, c'est Facebook, quoi.
C'est cette histoire, hein, là, de vaccination, ça me laisse quand même penser qu'il y a une certaine manipulation aussi du gouvernement, d'un ou des gouvernements.
Ouh là là.
C'est quand même assez ouf, tu vois, de vouloir utiliser le plus grand canal de communication du monde pour être pro-vax.
Écoutez, les amis, là, on va basculer dans un sujet complotiste. on vous invite tous à nous balancer, d'ailleurs,
vos théories
complotistes sur les réseaux sociaux @supernatuf. On est à peu près partout, y compris d'ailleurs sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à nous balancer vos théories complotistes. Et on vous invite évidemment, si vous avez le temps, à aller parcourir. Alors c'est un article payant évidemment, mais ça mérite d'être payant.
Un euro les deux premiers mois du Wall Street Journal.
Ce travail ouf du Wall Street Journal. Si vous avez le courage d'aller vous éplucher ces 5 heures de lecture, on l'a fait pour vous, on vous a résumé à peu près tout ce qui se raconte là-dedans. Ça fait froid dans le dos, mais sans doute que c'est pas fini.
Donc on vous annonce déjà qu'il y aura un acte 2 si d'autres dossiers un peu sales sortent. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, si vous avez des échanges, n'hésitez pas, comme l'a dit Thibaut. Voilà. Retrouvez-nous partout.
Et puis merci de nous écouter sur une application de podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, allez, on vous demande une faveur, mettez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Et les amis, on vous donne rendez-vous dès demain. Salut tout le monde.
Allez, ciao.
Ciao, ciao.
Salut.